Ouais, c'est normal que les gens ne sachent plus rien. Les études ne sont plus ce qu'elles étaient. De mon temps, on apprenait les départements, les préfectures, les sous-préfectures, Pas-de-Calais, Chef-lieu-Arras, etc.
Espèce d'espace, l'émission qui va vous faire aimer la géographie.
Après la place du marché Sainte-Catherine dans le Marais et la toute petite ligne 3 bis dans le nord-est de Paris, Espèce d'espace emmène vos oreilles, ou vos pas, dans le quartier de Javel, pour vous parler d'industrie et de nature dans la ville.
Nous sommes aujourd'hui dans le 15e arrondissement, à la limite du périphérique, mais cette fois au sud-ouest de Paris.
J'ai beau te faire belle à l'eau de Javel, mais le sang est indélébile et réapparaît sur les murs de la ville.
Ce qui nous a attirés ici est le nombre impressionnant d'activités différentes qui se juxtaposent dans un espace très réduit. Entre le port de Javel à l'ouest, la rue de la Convention au nord, la rue Saint-Charles à l'est et le boulevard Victor au sud.
En fait, nous pouvons distinguer trois grands espaces, ou trois grands types de fonctions qui cohabitent ici. D'abord, les grands édifices et les bureaux, puis le quai industriel de Javel, et enfin le parc André Citroën. Mais dis-moi, Corten, comment est-ce que tout cela s'organise ?
Alors d'abord, Alexandre, les fonctions de la ville qu'on pourrait dire traditionnelles. Les immeubles d'habitation, donc la fonction résidentielle, l'hôpital européen Georges Pompidou, les sièges sociaux, les commerces, les grandes surfaces...
Ou encore la préfecture de Paris et d'Île-de-France, juste à côté.
Bref, une multiplicité de services de proximité ou de services plus rares propres aux grandes villes.
Sans oublier que tout cela est relié au reste de Paris, à la fois par le métro, ligne 10 à Javel, ligne 8 à Ballard, par le RERC, par le bus... Lignes 88 et 62, entre autres, par le tramway et par les grands axes routiers.
Ah oui, le périph' se distingue là-bas au loin. Et j'ai vu que les voitures pouvaient aussi circuler sur, ou plutôt sous le quai, avec le tunnel Citroën-Cévennes.
Mais nous nous sommes plutôt intéressés aux deux autres éléments structurant ce quartier. Le port industriel de Javel, d'abord, fait presque figure d'exception. C'est un des derniers lieux de Paris intramuros où l'on trouve encore des activités industrielles.
Cette fonction industrielle coexiste enfin assez étrangement avec le dernier type d'aménagement observé dont tu parlais tout à l'heure, Alexandre, le parc André Citroën. Célèbre pour sa montgolfière qui offre un large panorama sur Paris, il a été créé en 1986 et inauguré en 1992 par les paysagistes Gilles Clément et Alain Provost et par les architectes Patrick Berger, Jean-François Jaudry et Jean-Paul Viguier.
Au milieu de tous ces gens qui travaillent ou se font soigner, les habitants, les passants et les enfants peuvent faire un jogging matinal ou simplement se balader dans les différentes parties du parc.
Nous sommes donc en présence de trois espaces différents par leur fonction et leur utilisation. La ville, l'industrie et le parc. Et dans cette émission, nous allons interroger leurs relations.
Entre-t-il en conflit ? Est-ce qu'on observe une relation de complémentarité ? Comment passe-t-on de l'un à l'autre ?
Chef d'équipe, attention ! Il y a des ennuis sur la chaîne 20. J'aperçois un écrou mal serré. Chef d'équipe, attention.
Nous nous trouvons d'abord sur le quai Javel André Citroën, qui contraste vraiment avec l'idée que l'on peut se faire des berges de Seine. N'est-ce pas, Alexandre ?
Effectivement, ici, pas de péniche à marée, de promeneurs ou de personnes assises sur le rebord pour prendre le soleil ou lire un bon livre.
On a plutôt sur ce port de Javel-Bas de grosses installations industrielles, des entrepôts et un passage important de camions toupies.
Des quoi ?
Des camions toupies, aussi appelés camions malaxeurs ou bétonnières portées. Des camions spécialisés dans le transport du béton frais, quoi.
Et d'où vient le béton ?
De cette centrale à béton que tu vois là, ce grand bâtiment blanc devant nous. Cette centrale appartient au groupe industriel Lafarge France, spécialisé dans le transport et la vente de béton, ciment et granulats.
Et j'imagine que les matériaux servant à fabriquer le béton sont livrés par les péniches.
Tout à fait. Des péniches chargées de ciment et de granulats remontent la Seine et elles déchargent ces matériaux sur le quai du port de Javel-Bas.
Dans la centrale, le ciment est ensuite mélangé aux granulats, à de l'eau et à des adjuvants pour faire du béton.
Enfin, ce béton est versé dans les fameux camions toupies qui vont rapidement aller le livrer dans Paris ou à proximité.
La centrale n'est pas le seul bâtiment présent sur ce port. Derrière elle, j'aperçois deux autres complexes, qui n'ont rien à voir avec la fabrication de béton.
En effet, il y a là une agence de l'entreprise Raboni qui vend des matériaux de construction de tout type pour les professionnels du bâtiment ainsi que pour les particuliers, et derrière une agence de l'entreprise Point P, également spécialisée dans la vente de matériaux de construction. Elles ont chacune un entrepôt sur cette berge.
Les stocks sont aussi acheminés par péniche, ce qui est bien pratique vu que chaque péniche a une capacité de chargement équivalente à celle de 40 semi-remorques.
Ce port à vocation industrielle subit pourtant de grandes transformations qui introduisent de nouvelles activités.
Pour que vous vous repériez un peu mieux, vous pouvez aller consulter le plan sur notre page Radio Campus. Depuis la fin des années 90, le port de Javelbas fait l'objet d'un projet de réhabilitation qui vise à aménager un espace qualitatif et fonctionnel partagé dans le temps entre, d'une part, les activités industrielles et, d'autre part, les activités récréatives.
Mais cette réhabilitation est déjà visible avec la promenade en fond de quai qui va depuis la rampe du pont Mirabeau jusqu'au parc André Citroën et sur laquelle nous nous trouvons actuellement. Désormais, le port de Javelbas accueille, en plus des ouvriers, des promeneurs, des cyclistes et des joggeurs.
À terme, une promenade bord à quai de plus de 500 mètres pour les piétons sera ouverte. Et en 2018, une piscine flottante devrait voir le jour en face du parc André Citroën. La guinguette La Javel, elle, sera définitivement ancrée le long du quai.
Une place de plus en plus grande est donc faite aux activités récréatives. Place qui grignote peu à peu l'espace réservé aux activités industrielles.
Ce que nous voyons là n'est que le résidu de la zone industrielle qui s'y trouvait. Il faut savoir qu'au siècle dernier, il y avait de nombreuses usines ici et dans l'ensemble du quartier, parmi lesquelles l'usine Citroën.
Ah oui, l'usine Citroën, elle était immense. Dans les années 1940, elle était la plus grande usine d'Europe, capable de produire 1000 voitures par jour.
Mais ça, c'était avant.
Aujourd'hui, il ne reste plus rien de cette usine. Elle a été fermée en 1982. N'est-ce pas, monsieur ? Qu'en est-il de Javel aujourd'hui ?
Javel, c'est fini. Ce 10 novembre 1982, la cérémonie d'adieu a réuni nombre de gloires, hommes et modèles, qui depuis 1919 ont inscrit aux places d'honneur le nom de Citroën dans l'histoire de l'automobile.
Certes, l'usine a été fermée puis démolie, mais André Citroën ne reste-t-il pas associé pour toujours à ce quai ?
De ce quai de Javel, qui s'est tellement identifié à Citroën qu'un jour d'octobre 1958, il en prit le nom.
Un dernier mot pour nos auditeurs ?
Javel, c'est fini. Alors, vive Neuilly et en avant Citroën.
Et maintenant, qu'avons-nous à la place de l'usine ?
Le parc André Citroën, bien sûr. On y va ?
Avec plaisir. En plus, il fait beau. Parfait pour aller flâner dans le parc.
Trop beau pour travailler, ce serait dommage de rester enfermé. Quand le soleil brille dans tous les soirs.
Nous voici désormais dans le parc André Citroën, entouré par des gens qui courent, des gens qui se promènent, des gens qui promènent leurs chiens ou des gens qui lisent et se reposent.
La fonction première du parc est a priori la fonction récréative. À première vue, tous les équipements confortent cette approche. Des fontaines aux bancs, en passant par les allées et les aires de jeux pour enfants.
On vient au parc pour prendre l'air, après l'école ou le bureau. Il s'agit en quelque sorte de se couper de la ville, de passer d'un cadre urbain à un cadre plus naturel, fait d'arbres, de pelouses et de jardins. Le parc est recherché pour la rupture qu'il représente avec un espace urbain bruyant, pollué et envahi par les voitures. C'est une parenthèse verte au milieu de la ville.
Cette rupture est renforcée par une organisation interne au parc. Trois espaces semblent se distinguer. D'abord, une partie centrale rectangulaire où sont juxtaposées des fontaines, une grande pelouse, des bassins et le ballon captif de Generali, qui change d'ailleurs de couleur en fonction de la pollution de l'air.
Au bout de cet espace, nous avons deux autres parcs mis à l'écart, nommés Jardin Blanc et Jardin Noir. Ils sont équipés de jeux pour enfants et d'un terrain de basket. Ici, la fonction récréative est clairement dominante.
Ces deux parties sont très aménagées, contrairement à la partie nord-ouest, qui est constituée, elle, d'une succession de jardins en alcôve mettant en scène la nature.
Que faites-vous quand tout va mal ? Vous chantez.
La conception courante de la nature consisterait à représenter un monde sans humain. La nature serait ici considérée comme opposée à la culture. La nature, c'est ce qui n'est pas affecté par les activités de l'homme et qui doit donc en être préservé.
Pourtant, en géographie, cette définition est contraire à la réalité.
En effet, pour les géographes, la nature est plutôt vue comme une représentation sociale, un besoin occidental. Ce besoin est exacerbé dans les espaces urbains. C'est un besoin de végétal, d'animal, de non-humain, de paysages naturels, comme on le voit dans ce parc.
Et les parcs et les jardins dans la ville sont une réponse à ce besoin. La nature n'est donc pas le non-humain, mais c'est plutôt une construction sociale, comme besoin d'espace et de verre. Ainsi, cette dernière partie du parc, la partie nord-ouest, où l'on se retrouve subitement au milieu des bambous et des arbustes, illustre cette idée de nature dans la ville. Il s'agit de fuir la ville tout en y restant.
Le parc met en scène la nature comme sauvage. Le promeneur passe en une minute de la partie centrale très aménagée à un espace presque forestier. La disposition scénique des jardins, le jeu sur les volumes et les distances semblent renforcer cette théâtralisation de la nature.
Et les bâtiments alentour, Alexandre, qui sont pourtant assez imposants, s'effacent complètement derrière les branches. Ici, le parc est aménagé de telle sorte que le promeneur se retrouve comme immergé dans la nature. Les allées, les fontaines, les passerelles disparaissent ou se font très discrètes. Elles semblent s'effacer au profit d'une véritable expérience de nature avec les oiseaux et les feuilles qui tombent.
On en oublierait presque qu'on est dans un parc à proximité de l'hôpital Georges Pompidou ou du port industriel de Javel-Bas, et tout ça au milieu du 15e arrondissement de Paris.
Ces représentations de la nature sont appropriées et défendues par les habitants eux-mêmes. À tel point que le compte-rendu du conseil de quartier Citroën-Boussicot du 6 novembre 2013 rapporte le mécontentement des riverains qui se plaignent du manque d'entretien du parc.
L'entretien du parc André Citroën n'est plus fait depuis 8 ans. Les serres sont fermées, les bassins sont vides, les passerelles sont également fermées.
On voit dans ce discours le paradoxe de la nature présenté comme le contraire de l'homme. C'est une nature qui ne doit pas être artificielle, qui doit être la plus naturelle possible, mais qui doit quand même faire l'objet d'un entretien régulier.
Ces protestations s'inscrivent donc dans la construction d'un certain idéal de la nature dans la ville. On a donc une impression de nature qui doit s'opposer à la ville. Et pourtant, cette mise en scène naturelle semble se fondre dans l'espace urbain.
Le parc, Alexandre, est intégré à ce quartier. Il est en interaction avec les bâtiments et les immeubles qui l'entourent. Il y a de très nombreuses entrées disposées tout autour du parc qui permettent aux riverains d'y accéder et d'en sortir très facilement. Très concrètement, par exemple, on a ce petit escalier qui relie directement la rue et une allée du parc.
Donc ce que tu dis là, Corten, c'est que ce parc devient ainsi un espace de circulation ancré dans le 15e arrondissement. Il n'y a pas de véritable frontière physique entre ce parc et le reste du quartier, mais plutôt de multiples ouvertures entre les deux. Le parc est une sorte de, comment dirais-je, de greffe de la nature dans le quartier. Il ne se conçoit pas comme un îlot de verdure coupé du reste du quartier, mais plutôt comme un espace qui fusionne avec son environnement urbain. La forme du parc elle-même renforce cette idée de greffe. Si vous regardez un plan, ou même si vous allez sur place, vous pourrez vous rendre compte que le parc s'immisce dans les vides de la ville, laissées par l'usine Citroën.
Il y a ainsi un enchevêtrement de la ville et de la nature. Contrairement à d'autres parcs parisiens, par exemple le Jardin des Plantes, qui par sa forme strictement rectangulaire, marque une réelle coupure avec l'espace urbain qui l'entoure. On est soit dans le parc, soit dans le 5e arrondissement. Ici, avec le parc André Citroën, on a plutôt une confusion des frontières.
Donc nous avons vu, au sein d'un même quartier, deux espaces qui ont chacun un rapport différent à la ville. L'espace industriel semble être coupé du quartier et s'oppose aux dynamiques qui l'entourent. Au contraire, le parc n'est pas une parenthèse dans la ville, mais en fait plutôt partie intégrante. Il incarne parfaitement le concept de « nature dans la ville ».
Merci de nous avoir écoutés.
Et rendez-vous sur radiocampusparis.org à la page Espace d'espace.